Moins 4 pour la première ronde.
La CBC à Don Cherry.
Bonjour, I'm gonna be Dan.
Dans l'avant-match, on a le coach. Éric Lavigne.
Monsieur Lavigne, bonsoir.
Salut, Dan.
Comment ça va?
Ça va très bien, merci toi-même.
Oui, merci. Éric, je parlais de championnat canadien universitaire au niveau du volleyball. La semaine dernière, quand on s'est parlé, tu étais dans l'ouest du pays pour accompagner l'une de tes équipes du Cégep Garneau. Comment ça s'est passé?
C'est très bien passé. On a terminé cinquième au Canada.
Okay.
C'était une grosse surprise parce que cette année, sur 12 filles dans l'équipe, on avait 8 recrues. C'est que c'était, sans dire que c'était une année de reconstruction, c'était un petit peu une surprise de se retrouver au championnat canadien cette année. Puis les filles ont très bien fait ça. Puis on vient qu'une cinquième position, malgré le fait que des fois, on se retrouvait avec 5 filles sur 6 des recrues sur le terrain.
C'est okay.
C'était assez impressionnant comme performance, puis ça augure très bien pour les prochaines années.
Éric, l'entraîneur-chef du Rouge et Or, Olivier, jadis, était au Cégep Garneau il y a une couple d'années, hein?
Absolument. C'est un gars qui a fait sa marque, qui a marqué le passage, qui a marqué le programme de Garneau, qui est un pilier du programme de Garneau, qui a remporté 2 championnats canadiens, justement, avec notre équipe de Garneau. C'est que c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui étaient à Garneau avant, qui sont rendus dans le haut de la pyramide avec le Rouge et Or présentement.
Absolument. OK, cette semaine est sortie une nouvelle concernant les jeunes joueurs novices, et je veux t'entendre là-dessus pour le développement des jeunes joueurs. On dit, on va les faire jouer 4 contre 4 sur des demi-patinoires. Tu es en accord ou en désaccord avec cette possibilité-là?
Je trouve pas ça fou. Je trouve que c'est une bonne idée, compte tenu qu'on dit souvent là, qu'il y a une baisse de motivation. Puis je regardais surtout les raisons qui ont poussé à ça.
Oui.
Puis, tu sais, Dan, on est plus vieux un peu, là, mais...
Ben, parle pour toi.
Novice, on jouait sur une demi-glace. Hein?
Oui,
ça
c'est vrai.
Pas qu'on jouait sur une demi-glace. Oui. Je me souviens que mon frère, qui était gardien de but, à un moment donné, avait entendu siffler sur l'autre demi-glace, avait arrêté de gauler, il s'était fait compter parce qu'il pensait que le jeu était arrêté.
Ah, ça, c'est
un match important.
Ah, ça, c'est
c'était une demi-bande, tu vas te souvenir, une petite bande qui séparait la glace en deux.
Ouais.
Mais je trouve pas ça fou parce qu'on veut que les jeunes touchent plus à rondelles. On veut leur donner le goût de continuer à jouer. Puis je pense que on parle beaucoup que les habiletés individuelles ont diminué dans les dernières années parce qu'on met trop l'accent sur les systèmes de jeu. Mais je trouve pas ça fou de leur donner la chance en étant sur un espace restreint de toucher à rondelle plus souvent, puis d'avoir la chance de manipuler la rondelle, puis de trouver leur coéquipier, ce qui est la base du hockey avant de penser au système d'échec avant, puis de défensive de zone. C'est que j'ai trouvé l'idée brillante.
En fait, tu vas rire, mais quand j'ai vu ça, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue avec Simon Gagné cet hiver. Simon, lui, il n'était pas pour ça. Il dirige actuellement son fils qui joue Norissa.
Oui.
Puis j'ai lu ça, puis j'ai dit, OK, là, avant de partir en peur, puis encore frapper sur Hockey Québec, je vais toujours bien lire exactement ce qu'ils viennent d'expliquer. Là, premièrement, quand j'ai vu que c'était Hockey Canada, déjà, c'est mieux qu'Hockey Québec. Puis j'ai aussi lu que ça se faisait aux États-Unis et en Europe, et les résultats étaient excellents.
Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que, de toute façon, ça va pas bien présentement. C'est qu'il faut trouver le moyen, peut-être, à la base, parce que la pyramide est pas assez élargie. Il n'y a pas assez de monde dans le bas de la pyramide. Puis si on peut garder les jeunes, puis leur donner le goût de venir jouer encore plus, ça va... Pour qui ça va faire mal présentement, puis ça va être un petit peu... Puis je peux comprendre Simon, parce que son gars, semble-t-il, est excellent. C'est que les meilleurs joueurs, présentement, vont sembler être désavantagés. Mais au bout de la ligne, le meilleur joueur, il reste meilleur joueur. C'est que oui, il paraît très bien sur la grande glace. Puis oui, c'est des joueurs qu'on voit, puis tu vois, c'est des gars qui vont compter 4, 5, 6 buts. Tu les vois bien quand tu joues sur une grande glace, mais il faut que tu te poses la question sur le développement du reste. Les autres ont-tu fermé les livres parce qu'ils touchent pas à rondelle, puis ils perdent goût au hockey. Mais je pense que le fait d'amener la chance de tout le monde, faut élargir la pyramide. Puis ça, je trouve que ça en est un bon moyen.
OK, parfait. Comme tu le sais, mardi, je fais une émission spéciale sur les 10 ans de l'altercation Jonathan Roy-Bobby Nadeau au Centre Georges le 22 mars 2008. Je sais que tu as écouté l'émission parce qu'on s'est échangé des textos.
Oui.
Tu as dirigé Bobby Nadeau de mémoire à l'époque où il jouait avec les Foreurs de Val-d'Or. Quelle sorte de gars c'était à l'époque? Puis qu'est-ce que tu retiens de l'entretien que j'ai fait avec lui?
Mais de un, j'ai trouvé très intéressant l'ensemble de tes intervenants dans cette journée-là, dans cette émission-là. Je pense que ça dressait bien le portrait, puis c'était un événement marquant du hockey junior. Là. J'étais dans le hockey junior à ce moment-là. C'était le fun de rentendre des gens qui étaient impliqués. En ce qui concerne Bobby, je l'ai dirigé, oui et non. Oui, je l'ai dirigé. Mais malheureusement, il a été échangé deux fois quand j'étais dans son organisation. Ça a commencé avec les remparts. On l'avait échangé dans le camp d'entraînement. C'est la première année de Patrick comme directeur gérant, donc il avait été échangé. C'est que je l'avais connu au camp d'entraînement des remparts à la base.
Okay.
Par la suite, à Val-d'Or, quand je suis arrivé à Val-d'Or, on avait deux gardiens du même niveau. Puis on s'est retrouvé dans une position où on voulait monnayer celui qui nous rapporterait le plus. C'était Bobby qui a fait partie d'une transaction parce que les deux pouvaient gauler. Dans le fond, c'était deux gardiens qui avaient le potentiel d'être numéro un.
Okay.
On avait besoin d'être en reconstruction. Mais c'est un gars, tu l'as vu juste de par l'entrevue qu'il t'a donnée. C'est un gars très intelligent.
Oui.
C'est un chic type. Tu vois que c'est un gars qui avait beaucoup de classe puis qui avait. Tu voyais que dès son jeune âge, c'est un gars qui avait une très belle personnalité. Qui était une bonne personne. C'est que les deux fois, je l'ai eu à côtoyer, on le connaissait bien vite, très vite, puis c'est un gars qui était apprécié de ses coéquipiers. C'est que l'entrevue qu'il t'a donnée est tout à fait le reflet de la personne qu'il était quand il jouait au hockey junior. Puis je suis content de voir où il est rendu. Et il a d'ailleurs aussi eu une très belle carrière de hockey, là, si on prend sa carrière junior
oui. Et
sa carrière universitaire.
Absolument. OK, mais je veux t'entendre maintenant sur la rivalité Saguenay-Remparts, parce que tu as dirigé les Remparts aller jusqu'en 2005. Est-ce que la rivalité est arrivée avec Patrick Roy versus Richard Martel, ou même quand tu coachais, il y avait une bonne rivalité avec les Sags?
Oui, il y avait une très bonne rivalité avec les Sags, les années contre Richard Martel. Je me souviens que c'était déjà très, très intense. D'ailleurs, quand je suis allé coacher à Val-d'Or et qu'on me parlait de la rivalité entre les Foreurs et les Huskies,
ouais.
Je leur disais tout le temps, c'est
tranquille.
Pas nécessairement, sans dire que c'est tranquille. J'ai connu plus gros là, avec Chicoutimi Québec.
Okay.
Dès que c'est. Tu sais, c'est souvent. C'est vrai que quand j'étais arrivé à Val d'Or, les deux équipes s'étaient jamais rencontrées dans l'histoire avec Rouyn-Noranda dans les séries. Tandis que Québec, Chicoutimi, on s'est affrontés dans les séries. Il y a eu des rivalités intenses. Puis j'ai eu des prises de bec avec Richard. Puis on a eu des bons shows pendant ces séries-là qui font en sorte que la rivalité était déjà très, très élevée. Oui, l'arrivée de Patrick. L'arrivée de Patrick a fait que c'est encore plus médiatisé.
Okay.
La rivalité était déjà très, très forte. L'arrivée de Patrick a fait en sorte qu'il y avait encore plus de caméras et ça a augmenté le niveau d'intensité puis le niveau de rivalité, mais la rivalité était bel et bien là avant. Là. Puis tu parlerais à Guy Chouinard, puis il va te dire que la rivalité était déjà là avant, mais je me souviens d'une année que les Remparts n'étaient pas supposés gagner, puis ils avaient éliminé Chicoutimi 4-0 dans le temps d'Alain Rajotte, puis tout ça, c'est que c'était la rivalité, la proximité a fait qu'il y a toujours eu une bonne rivalité.
OK. Est-ce que tu es surpris, puis comment tu m'expliques qu'au 15 mars d'une saison qui se termine dans trois semaines, il n'y a pas eu un seul congédiement d'entraîneur dans la LNH, Éric, cette année?
Ben, ils ont commencé à payer les coachs plus cher. C'est que là, c'est sûr que ça change la donne du fait qu'avant, c'était facile d'éjecter un entraîneur de son siège. C'était très, très minime sa masse salariale. Aujourd'hui, les coachs, on a changé la façon de les payer. On a changé et le fait des payer davantage a fait en sorte qu'on les respecte un peu plus. Puis avant de peser rapidement sur le bouton en se disant qu'il n'y a pas d'impact financier, mais aujourd'hui, on voit que c'est une relation d'affaires qui s'est créée, que c'est encore plus, qu'il y a un respect parce qu'on a un respect qui est plus grand parce qu'on a reconnu à leur juste valeur le travail des entraîneurs. Et ça a donné un petit peu moins de pouvoir aux joueurs aussi, parce que avant, quand on savait que l'entraîneur était tout le temps sur un siège éjectable, c'était la décision facile de l'organisation. C'est que c'est une bonne nouvelle, c'est une très, très bonne nouvelle, puis c'est le fun de voir que ça arrive cette année.
OK. 10 mois après la transaction, Sergachev-Drouin, est-ce que tu as l'impression que le Canadien regrette cette transaction-là?
C'est sûr qu'à court terme, apparaît pas bien la transaction. Transaction qui paraît pas très, très bien parce qu'on a vu que Jonathan Drouin n'a pas performé cette année. Moi, je pense que la vraie évaluation qu'on va être capable de faire de Jonathan Drouin, ça va être la journée qui va avoir des compagnons de trio, puis qui vont avoir trouvé les bons joueurs pour jouer avec, puis qui vont avoir augmenté leur pouvoir offensif. Présentement, il est clair qu'il n'a pas pu supporter le fait d'être le pilier, puis de ne pas performer, puis de faire en sorte que c'est pas la saison qu'on s'attendait. Ça, je pense qu'on va l'évaluer dans les prochaines années. Si jamais il connaît une série de mauvaises saisons, on va dire de quoi, Dan, qui m'inquiète plus, par exemple. Une histoire que je me suis fait conter de sources très sûres. J'ai quelqu'un qui a rencontré avec son fils le coach du Lightning cet été dans la SAQ à Tampa Bay.
OK.
Le petit gars joue au hockey, puis il est avec son père, reconnaît John Cooper, jase avec John Cooper. Bonjour, on vient de Montréal, comment ça va? On est des amateurs de hockey, on sait que vous venez de faire une grosse transaction avec les Canadiens. Puis John Cooper dit oui, on a fait une bonne transaction. Puis John Cooper était très, très sociable, puis a jasé de façon ouverte avec le jeune et son fils, okay. Avec le père et son
ouais.
fils.
Okay.
Puis à la fin de la conversation, ils se revoient, quand ils sont en train de commander du vin d'un aller, ils se revoient plus tard près de la sortie aux caisses. Et le jeune, le père dit au John Cooper, on vous souhaite une bonne saison, puis bonne chance avec Sergachev. Et Cooper a répondu, non, non. Je vous souhaite bonne chance avec Jonathan Drouin.
Oh boy!
Oh boy! C'est que là, sur le coup, moi, quand je me suis fait compter cette histoire-là, j'ai dit, il y a peut-être un froid entre lui et le joueur, mais ça voulait probablement parler d'attitude. Puis c'est ce qui m'inquiète de cette année, parce que tu sais que je suis un fan de Jonathan Drouin.
Oui, oui tu l'as
tu sais
déjà
que je t'en
dit,
ai
oui.
parlé oui. avec beaucoup d'éloges en début d'année.
Oui.
Là, l'attitude me dérange certains soirs. Je te le cacherai pas, l'attitude me dérange. Puis cette anecdote-là qui arrive dans le décor, que je raconte pour une des premières fois, fait en sorte que si... Je pense que d'un contexte gagnant, il va être super, mais qu'il y ait des bons alliés, il va être super, mais j'ose croire qu'avec l'expérience de cette année, bon, on va voir un nouveau Jonathan Drouin l'an prochain.
Est-ce que ma lecture est bonne si je dis que c'est un très bon jeune joueur, mais c'est pas un game-changer?
Mais il ne l'est pas encore cette année parce qu'il est...
Tu peux le devenir?
Ben, je pense qu'il serait à Tampa Bay s'il était bien entouré et qu'il n'y a pas juste lui. Cette année, ça a tellement été atroce,
okay.
le Canadien offensivement, que ses déboires paraissent encore plus. Et on a encore plus la caméra sur lui qui fait qu'il est pas... Il paraît pas toujours bien parce qu'on le voit découragé, on le voit comme baisser les bras. Et ça, je connaissais pas ça de lui. Parce qu'à Halifax, dès qu'il est arrivé à 16 ans, il a toujours été d'une bonne équipe. Dès sa première année à 16 ans,
oui.
il était d'une équipe championne à Halifax. C'est qu'il a toujours été dans une équipe qui gagnait. C'est quand tu joues d'une équipe qui gagne, on voit pas tes travers, pis on voit pas tes côtés qui sont un peu plus difficiles. Sauf que c'est un gars qui a, tu sais, où on parle d'attitude, il a choisi son club midget 3, il a choisi son club junior avec sa grève, il a voulu choisir son club dans la Ligue nationale. Et là, je suis obligé de me poser la question, c'est toujours juste des circonstances qui est à mauvaise place au mauvais moment ou l'attitude va falloir qu'il soit un peu mieux. J'ai encore confiance aux joueurs de hockey parce que quand il ouvre les valves, je le trouve très, très talentueux. Puis j'ai hâte de voir, là, c'est dans le futur que la transaction, on va être capable de l'évaluer.
Parfait, un gros merci Éric, bonne soirée.
Merci Dan.
À bientôt Éric Lavigne.